dissonance.
Trois fois par mois, pendant une heure, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des voix dissonantes et de découvrir des parcours de vie qui portent un éclairage différent sur nos vies, nos luttes et nos espoirs.
Dissonance.
Joseph Fula sur Radio Sainte-Afrique.
Sortie, s'adresser au général Trochu. Rôti, cuisseau de rat à la crapaudine. Côtelette de chien sauce verte.
Donc là, elle se plante là avec son petit chien. Alors, pour la petite anecdote, qu'elle a prénommée Floréal, parce qu'il y a eu une aurore boréale à Paris au mois de le 24 octobre. Donc les Parisiens ont vu le ciel tout rouge. Donc elle sort, elle se mêle à la population. Et donc une femme n'a pas bien compris, elle a pensé que c'était une aurore floréale, pas boréale.
Bonjour, cette discussion a été enregistrée au café associatif de Sainte-Afrique lors d'un échange organisé par Sylvie Boulard.
Échange et rencontre avec un auteur, Fred Maurice, qui venait présenter son dernier livre, Un hiver de chien, Paris 1870-1871.
Quand tu parlais de la scène, du dépeçage du cheval, ça me faisait penser à L'œuvre du serpent de Bergman, où ça se passe après la guerre de 14-18 en Allemagne, au moment de la grande crise. Et en fait, il y a cette scène-là, où il y a un cheval qui tombe et les gens viennent dépecer. L'œuvre du serpent, ça s'appelle ce film.
D'accord, mais je n'ai pas vu.
Mais je me fais penser à ça là quand tu parles.
Fred Maurice est aujourd'hui l'invité de Dissonance. Fred a vécu son enfance tout près de Paris, au sein des grands ensembles bâtis pour accueillir les populations de pauvres, où se croisaient les Espagnols, les Portugais, les Vietnamiens, les Nord-Africains.
Cette vie riche de rencontres l'a amené à l'écriture et à la publication de nouvelles, de romans, de livres jeunesse, qui s'inscrivent tous dans la littérature sociale contemporaine. Dissonance
sur Radio Sainte-Afrique. Aujourd'hui, autour du dernier livre de Fred Maurice, Un hiver de chien, il va être question d'un événement très peu connu du grand public et rarement abordé dans les programmes scolaires, à savoir le siège de Paris par les Prussiens lors du terrible hiver de 1870-1871.
Aujourd'hui, nous verrons comment un gouvernement français a fait semblant de faire la guerre pour tromper le peuple.
En fin d'émission, nous retrouverons Elsa Dauphin et sa chronique poélytique.
Tout d'abord, avec Fred Maurice, nous allons évoquer la résistance des gardes nationaux, la survie avec des repas où l'on consommait rats et chevaux, et surtout faire revivre ces hommes, ces femmes et ces enfants de Paris. Peuple qui sera l'auteur quelques mois plus tard, au printemps 1871, de la toute première tentative véritablement révolutionnaire en donnant vie à la Commune de Paris.
Mais replongeons-nous juste avant, dans cet hiver de 1870.
Bismarck, qui n'est pas en peine d'affamer les Parisiens, nous demande la Lorraine, l'Alsace et les Alsaciens. La honte pour nos soldats, des milliards à son service.
Asite à ton armistice, Bismarck, n'en voulons pas.
On nous permettra du reste, pendant 20 à 25 jours, de manger ce qui nous reste de vieux chars, de rats et d'ours. Mais plus le moindre repas après le vote au comice.
Asite à ton armistice, Bismarck, n'en voulons pas.
Je fais la guerre à l'Empire, disait le maître effronté, et le valet qui fait pire pour chasse la liberté. Tu nous croyais donc bien bas pour vouloir ce sacrifice.
Asite à ton armistice, Bismarck, n'en voulons pas.
Dissonance.
Fred Maurice.
Sur Radio Sainte-Afrique.
Tu viens d'éditer, Fred Maurice, un livre qui s'appelle Un hiver de chien, avec un sous-titre Paris 1870-1871. C'est un gros bouquin magnifique, d'aspect magnifique, 500 pages, près de 100 illustrations, un titre gros frais, illustration en couverture superbe. C'est un roman historique qui se passe donc dans Paris, sur une période qu'on connaît très très peu, le siège de Paris. Est-ce que tu peux en quelques minutes nous rappeler le contexte historique de ton roman ?
Alors effectivement, c'est une période qui est très très mal connue, voire complètement inconnue. C'est une période qui est très liée avec la Commune de Paris. Pour les gens qui connaissent la Commune de Paris, c'est une des explications à l'explosion du mouvement social insurrectionnel de la Commune de Paris. Et donc, pour resituer un petit peu, il faut savoir qu'on était sous le Second Empire, Napoléon III, depuis pas mal de temps déjà, que la situation sociale devenait de plus en plus tendue, les ouvriers se rebellaient assez souvent, faisaient des manifestations, des grèves qui étaient interdites.
Notamment, il y avait, on peut parler de la grève du gaz, de la grève de la Ricamarie.
Oui, à la Ricamarie, à Aubin, pas très loin d'ici.
Avec 17 morts à la clé.
Voilà, donc où la troupe intervenait, à l'époque c'est pas les CRS, mais c'était la troupe qui tirait à balles réelles. Et donc voilà, l'Empire sentait très bien qu'il y avait l'international avait été créé en 1864 et commençait à prendre de l'ampleur, puisque les ouvriers ont compris que cette organisation pouvait les aider à lutter contre l'exploitation patronale de l'époque. Et donc il y avait ce contexte, il y a eu l'assassinat d'un journaliste, Victor Noir, par un membre de la famille Bonaparte, et qui a déclenché une manifestation de 200 000 personnes dans Paris. Et il y a eu un plébiscite aussi au printemps 1870, et qui à Paris n'a pas été favorable au gouvernement. Donc le gouvernement s'inquiétait sérieusement. Et donc en général, quand ça va très mal dans un pays à l'intérieur, une des solutions pour tout résoudre est de déclencher une guerre que l'on pense sans conséquence, que l'on pense pouvoir faire très rapidement. Et Napoléon III, lui, n'était pas très va-t-en-guerre, il était physiquement amoindri, déjà malade, mais tout son entourage, beaucoup de députés autour de lui, l'encourageaient dans le sens de la guerre. Et puis, de l'autre côté du Rhin, les Prussiens, surtout Bismarck, avaient le souhait d'unifier les différents États allemands qui existaient, ce qui avait déjà été fait au cours de deux guerres précédentes qu'avait fait la Prusse. Donc, chacun avait d'un côté et de l'autre, une raison de déclencher une guerre. Et finalement, les Français c'est eux qui ont déclaré la guerre. Alors, pour un prétexte qui est un petit peu long à résumer, mais on va dire que Bismarck a quelque part offensé les Français, parce qu'il était question d'une union entre un prince allemand et une princesse espagnole, ce que la France ne voulait pas. Et donc voilà, donc un prétexte très 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 léger et inventé même pour déclencher la guerre déclarée par les Français au mois de juillet. Les armées allemandes étaient, elles, prêtes. Elles avaient fait deux guerres durant la décennie qui s'est écoulée. Et l'armée française, elle, était pas du tout prête. Les généraux ont démontré leur incompétence. Et c'était une désorganisation totale, puisque certains soldats qui habitaient le nord de la France devaient descendre dans le sud pour chercher leur équipement. D'autres, même, allaient dans les colonies, en Algérie. Donc c'était une catastrophe. J'ai lu un courrier d'un commandant qui cherchait ses troupes en arrivant près des frontières de l'Est. Donc, les Français souhaitaient faire une percée en Allemagne pour couper l'Allemagne en deux. Et finalement, c'est l'Allemagne qui a fait la percée dans le sens inverse. Et voilà. Et puis, très rapidement, des villes ont été assiégées, dont Metz et Sedan, où était l'empereur avec Mac Mahon, le général. Et l'armée française, elle a été vraiment prise en étau, a dû se rendre, et Napoléon s'est rendu. Mais la guerre ne s'est pas terminée là. Deux jours plus tard, la Troisième République a déclaré à Paris, par des députés de tendance bourgeoise. Et voilà, les armées allemandes continuent à progresser, à assiéger plusieurs villes, et se rapprochent peu à peu de Paris, qu'ils vont assiéger à partir du 19 ou 20 septembre.
Et les républicains donc, qui dirigent Paris vont décider de s'opposer aux Prussiens.
Officiellement. Bon, il faut savoir que c'est vrai que le mouvement ouvrier était de plus en plus puissant. Et quand l'Empire tombe, quelques républicains bourgeois députés décident rapidement, pour couper un petit peu l'herbe sous le pied au mouvement plus à gauche, de se déclarer gouvernement de la défense nationale. Il faut savoir que la population s'était déplacée assez massivement autour de l'Assemblée et que ces députés, eux, sont partis à l'hôtel de ville, en fait, pour avoir un peu plus de calme et déclarer donc ce nouveau gouvernement et de défense nationale, donc censé lutter contre l'ennemi prussien. L'histoire nous apprendra, enfin pour ceux qui connaissent cette histoire, que ce gouvernement n'a jamais cherché à lutter, mais avait plutôt l'obsession de lutter contre le mouvement ouvrier. Et y avait ce qu'on appelait, enfin ce que les bourgeois appelaient les Prussiens de l'intérieur, qui étaient les ouvriers, en fait.
Non, jamais sur cette terre, on ne vit en vérité pareille calamité, ni des affreuses misères que celles que l'on subit sous le siège de Paris. Paris, cette ville aimable qui donc ose l'assiéger, serait-ce cet étranger qu'avec un accueil affable elle admettait dans son sein? Oui, c'est lui, son assassin. Et bien de tous ces ravages nous souffrons sans murmurer. Loin de nous désespérer, ils augmentent nos courages. On ne vaincra pas Paris tant que nous serons unis.
Dissonance,
Fred Maurice.
Sur Radio Centrafrique.
Alors l'unique moyen de survie du gouvernement dit de la défense nationale, ça sera la duplicité.
Nous écoutons Henri Guillemin.
Ces gens vont faire croire, ils vont faire semblant de faire de la résistance, alors qu'en réalité, ils n'ont qu'une pensée, le plus vite possible, la capitulation. Vous rendez compte que c'est pas tellement facile, hein, c'est un jeu de voltige, en façon des funambules, ils marchent sur une corde raide. Alors il y aura des crises. Hein. Assez rapidement, l'extrême-gauche va s'apercevoir qu'on est en train de la rouler. Blanqui, qui représente l'extrême-gauche la plus rouge, Blanqui, c'est l'incarcéré, c'est le type qui a fait une grande partie de sa vie en prison. Blanqui avait lancé, dès le début de septembre, un journal qui s'appelait « La patrie en danger », où il disait, union sacrée, enfin, ralliement de tout le monde derrière ce gouvernement qui est un gouvernement de défense. Début de septembre. Mais le 15 septembre, dans son journal, Blanqui disait déjà, le cœur se serre au soupçon d'un immense mensonge. Et le 11 octobre, toujours dans son journal La Patrie en danger, il va dire, la question se pose de savoir si nous ne sommes pas tous en ce moment les victimes d'une abominable comédie.
Donc pendant deux ans, quasiment de 1870 à 1871, ce gouvernement va faire semblant de résister aux Prussiens. Mmh. Et ceux qui vont payer les pots cassés de cette histoire, c'est le petit peuple de Paris. Le petit peuple de Paris qui, pour moi, dans ton livre, est le personnage principal. Parce que tu nous fais vivre à travers lui les conséquences d'un siège qui sont la famine, les assiégeants, la survie, le lien avec la province, grâce à des arrêts aux nefs dont tu vas nous parler.
Oui, oui.
Voilà, donc, et tu as mis en valeur tous ces personnages à travers une petite fille, à travers des gamins, etc.
Oui, oui, oui. Mais je souhaitais que ça se passe dans un quartier populaire. De toute façon, Paris était majoritairement ouvrier à l'époque. Et oui, je souhaitais que ça se passe dans un quartier populaire parce que très souvent, l'histoire nous est enseignée à travers des grands personnages historiques et le peuple apparaît en filigrane ou quand il apparaît, c'est uniquement dans les mouvements insurrectionnels. Et là, je voulais vraiment montrer le quotidien au jour le jour avec toutes les difficultés rencontrées dues aux conditions climatiques extrêmes, dues au manque de combustible à un moment, au manque de nourriture également. Donc oui, le personnage principal, enfin le peuple est très présent et on suit les gardes nationaux, donc qui étaient des civils qui s'engagent dans la garde nationale pour lutter. Beaucoup vont se contenter d'être sur les remparts, donc ne vont pas même on leur avait donné un surnom, les escargots de remparts, parce qu'ils avaient dans la physionomie, avec leur sac sur le dos, et comme ils faisaient beaucoup d'allers-retours sur le rempart, les plus médisants les appelaient les escargots de remparts. Alors ils vont faire quelques petites sorties, ils vont participer plus massivement à la dernière bataille du mois de janvier, où il sera révélé qu'ils vont se battre très vaillamment et faire pas mal de dégâts. Et beaucoup pensent que si vraiment la garde nationale avait été utilisée en plus grand nombre, peut-être que... Bon, il y a beaucoup de raisons qui auraient pu faire que la guerre tourne favorablement pour les Parisiens, mais voilà, les gardes nationaux ont très peu participé à la... Voilà, donc ça c'était des gens du peuple, des ouvriers qui n'avaient plus de travail, donc pour faire vivre leur famille, ils s'engageaient, puisqu'ils avaient une solde d'un franc 50, donc sachant que le salaire moyen à l'époque était de 3 ou 4 francs, donc c'était un petit peu moins, mais ça permettait quand même de vivre. Et puis les femmes qui se mariaient, parce qu'à l'époque dans le peuple on vivait plutôt en concubinage, et les couples qui officialisaient leur union, les femmes avaient 75 centimes en plus de... Voilà, donc ça permettait un petit peu de... Voilà.
Dans la vieille cité française existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Tous ses fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un taulis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Ce n'est pas le pilier de bagne, c'est l'honnête homme dont la main par la plume ou le marteau gagne en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille les jours et quelquefois les nuits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème qui sans souffler rime rêveur, un sonnet à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qu'il loge et qu'il a des habits, c'est la canaille, eh bien j'en suis. C'est l'homme à la face terreuse, au corps maigre, à l'œil de hibou, au bras de fer, à main nerveuse, qui sortant d'on ne sait pas où, toujours avec esprit vous raille, se riant de votre mépris, c'est la canaille, eh bien j'en suis.
Dissonance,
Fred Maurice,
sur Radio Centrafrique.
La garde nationale, pour moi, c'est un des trois grands thèmes du bouquin, la découverte de la défense de Paris à travers ses hommes. Mais il y en a deux autres qui, pour moi, me semblent importants. Le premier, je dirais, c'est la famine, la débrouillardise, à travers l'histoire de cette petite, de ton héroïne, qui s'appelle Célie, qui a 10-11 ans, et qui va protéger un petit chien. Tu peux nous en parler?
Ouais, alors le hasard a voulu qu'un soir, où il y a eu une magnifique aurore boréale à Paris, au mois d'octobre, le 24 octobre, elle découvre un petit chien abandonné près de chez elle. Et puis comme elle se sentait seule, parce que sa mère est bloquée en province avec son petit frère, que son père à ce moment-là est au rempart, donc elle est seule chez elle, et puis elle voit ce petit chien qui a l'air abandonné, donc finalement elle va l'adopter, sans demander l'avis à son père.
Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards, tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paname suinte la misère, les heureux mêmes sont tremblants. La mort est au conseil de guerre, et les pavés sont tous sanglants. Oui mais ça rend le temps, le manche et mou des jours finiront.
Dissonance,
Fred Maurice,
sur Radio Centrafrique.
Et donc ça, c'était au mois d'octobre. Il y avait encore de la nourriture à peu près en nombre suffisant. Mais plus on va avancer, plus les animaux qui avaient été entrés dans Paris au début du siège vont disparaître, parce qu'ils vont être tous consommés, les bœufs, les moutons principalement. Donc peu à peu, les animaux domestiques vont commencer à servir de repas. Donc les personnes qui ne pouvaient plus nourrir leurs animaux vont les vendre. Donc souvent avec le cœur un petit peu déchiré. Certains faisaient même des courriers en demandant au boucher de venir chercher le chien. Et puis des vols vont avoir lieu. Je décris une scène, un moment où une bande de gamins vole le chien à une femme de façon... Et donc elle se rend compte que son chien devient extrêmement convoité un petit peu par tout le monde, par une bande de gamins, justement la bande à Galoche, qui habite dans un quartier du 13e, de l'autre côté de la butte aux Cailles. Et les bouchers qui parfois le voient passer, qui comprennent que c'est un revenu pour eux aussi. Son père qui n'aime pas le chien, qui essaie de le vendre aussi à un moment. Et donc c'est une lutte tout le long du livre pour protéger son chien. Et puis à travers ça, on suit en même temps l'évolution du siège. Voilà.
Dans le cas de cette famine, ils ont mangé les animaux du zoo.
Oui.
On découvre.
Oui. Alors moi je le précise dans le livre, à l'époque à Paris, il y avait deux zoos. Le zoo de Vincennes n'existait pas encore, mais il y avait le jardin des plantes et le jardin d'acclimatation dans le bois de Boulogne. Mais quand on a fait venir des animaux de l'extérieur pour nourrir la population, on les a parqués dans le jardin d'acclimatation, ce qui fait que en partie parce qu'on a parqué des animaux ailleurs dans les parcs, sur les boulevards, et donc les animaux du zoo, certains ont pu être vendus avant le siège en province ou à l'étranger, ceux qui n'ont pas pu sortir de Paris se sont retrouvés en pension dans le Jardin des Plantes. Et la plupart des animaux qui ont été vendus aux bouchers ou aux restaurants des beaux quartiers sont les animaux qui appartenaient au Jardin d'acclimatation. La direction du Jardin des Plantes, elle refusait catégoriquement de vendre ces animaux pour les restaurants. Donc les gens des beaux quartiers ont goûté à peu près à tous les animaux exotiques. Les plus connus sont les éléphants Castor et Pollux, qui étaient deux jeunes éléphants qui avaient 6 ou 7 ans, et qui ont été tués. On leur a tiré une balle dans la tête, une balle explosive. Enfin, ça n'a pas très bien fonctionné. Les animaux ont connu une certaine agonie. Et voilà, donc ça finissait dans les assiettes. Il y avait une boucherie anglaise sur le boulevard Haussmann. Il y avait les grands restaurants, comme le restaurant Brébant, sur le boulevard des Italiens. Et voilà, donc, mais ça, la population la plus pauvre... Elle se contentait essentiellement des repas des cantines municipales qui avaient été créées au début du siège, des fourneaux économiques et puis des cantines privées. Il y avait des personnes aisées qui créaient des cantines privées. Personne n'est mort de faim, parce que tout a été mis en place quand même pour que les gens aient de quoi se nourrir, mais ce n'était pas une nourriture suffisante. Ce qui a eu beaucoup de morts, des conséquences à la fois du froid et du manque de nourriture saine et puis conséquente, surtout quand on lutte contre le froid et qu'on mange très peu. Et voilà, donc peu à peu, voilà, une autre nourriture s'est substituée à celle habituelle. Et bon, les chats, mais les chats se consommaient déjà un petit peu souvent à la place des lapins, parce qu'il y avait ce qu'on appelait les lapins de gouttière. Donc il y était des chats qu'on retrouvait à la place de lapins dans certaines gargotes. Et les rats, alors j'ai pas trop de précision dessus, mais moi je pense qu'ils étaient consommés essentiellement en pâté. Peut-être que certains en ont mangé comme ça, comme de la viande cuite. Mais il y avait, ce qui est sûr, c'est que c'était vendu, donc consommé d'une manière ou d'une autre, puisqu'il existait un marché sur la place de l'hôtel de ville, qui se tenait assez régulièrement, je crois que c'est chaque semaine, il y avait un marché aux rats, où les gens venaient acheter des rats, donc peut-être des restaurateurs qui après en faisaient du pâté.
Il y a même une scène où tu décris le dépeçage d'un cheval en pleine rue.
Oui, alors moi je l'ai lu à plusieurs reprises, parce que dans ma documentation, je me suis surtout basé sur des témoignages de Parisiens qui ont tenu leur journal au jour le jour. C'est ce qui m'intéressait le plus. Et à deux ou trois reprises, j'ai lu des scènes dans des lieux différents de Paris, de chevaux qui étaient tellement fatigués, qui soit tiraient une charrette ou soit étaient amenés comme ça, peut-être à l'abattoir ou ailleurs par leur maître, qui chutaient dans la rue. Et quand les gens s'apercevaient que la bête était... plus ou moins mourant, tout au moins très fatigué, se précipiter chez eux pour prendre couteau, hachette, et puis tuer l'animal et le dépecer sur place. Et puis voilà, ça, le cheval qui était pourtant quasiment pas consommé avant le siège de Paris. À Paris, on ne consommait pas de cheval. Mmh. Et très très peu. La première boucherie chevaline à Paris a ouvert en 1866, mais ça n'a pas pris. Les gens n'aimaient pas la viande de cheval, parce que c'était un animal... familier, puisqu'il était très très présent dans la ville, pour les travaux, que ce soit à l'extérieur de Paris, les travaux de champ, pour tirer les omnibus, les différentes charrettes. Donc le cheval, c'était pas une viande qu'on pensait consommer. Et voilà, donc oui, c'est des scènes assez violentes, moi, quand je les ai lues. Donc ma petite héroïne est là, présente un moment, et c'est vrai qu'elle va subir un choc devant cette scène.
Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur.
Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va d'eux, cueillir en rêvant des pendants d'oreilles.
Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Pendant de corail qu'on cueille en rêvant.
Quand vous vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles.
Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai pas sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des chagrins d'amour.
J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie.
Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Dissonance,
Fred Maurice,
sur Radio Centrafrique.
À travers donc cette famine, on voit un petit peu les souffrances et notamment les facultés d'adaptation du petit peuple de Paris. À travers les gardes nationaux, on voit la résistance du petit peuple de Paris alors que le gouvernement de défense nationale fait semblant de résister. Oui. Et puis après, il y a une autre partie qui me semble intéressante, c'est la communication à travers les aéronefs.
Oui. Alors, dès le début du siège, alors il y avait un ou deux ballons, mais qui étaient des ballons qui étaient arrimés au sol, donc qui permettaient d'observer à l'extérieur. Et puis très rapidement, devant l'impossibilité de communiquer, parce qu'il y avait un siège, mais aussi un blocus complet, il y a eu des messagers à pied qui ont tenté de correspondre avec l'extérieur. De très rares ont réussi à passer dans un sens et dans l'autre, mais ceux-là sont très très rares. Beaucoup se faisaient abattre. Le plus simple a été de communiquer à travers les ballons. Donc les ballons non dirigeables, parce que forcément ils étaient sujets au vent, donc les ballons partaient en fonction de la direction du vent. Et il y a eu plusieurs ateliers de fabrication, mais les deux principaux étaient à la gare du Nord, où c'était l'équipe du photographe Nadar, qui était aérossier également, et à la gare d'Austerlitz, qui à l'époque s'appelait la gare d'Orléans. C'était la famille Godard, qui était une famille d'aérostiers, les femmes, le grand-père qui avait près de 70 ans et lui-même monté dans un ballon pour sortir de Paris. Donc voilà, les ballons étaient fabriqués dans ces deux gares. Et le plus souvent, c'était des marins qui étaient dans les forts autour de Paris, qui étaient recrutés pour partir en ballon, alors qu'ils n'avaient jamais navigué ailleurs que sur mer. Donc là, ils allaient devoir s'embarquer. Il y avait une formation assez rapide qui était faite à terre, en fait. Donc les marins montaient dans les nacelles et puis simulaient un petit peu tous les mouvements de navigation. Et près de 70 ballons sont partis de Paris. Je dirais que plus d'une soixantaine sont arrivés au-delà des lignes prussiennes, donc on peut amener des courriers, des dépêches, des journaux. Quelques-uns sont tombés en Prusse, deux ou trois sont tombés en Prusse, deux se sont perdus en mer, un est arrivé jusqu'en Norvège. Et en retour, donc, depuis la province, on communiquait avec les pigeons voyageurs. Mais quand la période était très froide, le ciel très gris, les pigeons avaient du mal à se diriger. Et puis les Allemands avaient aussi ramené des faucons pour attraper les pigeons qui revenaient autour de Paris. Donc assez peu sont revenus, mais quelques-uns réussissaient quand même à rejoindre Paris. Et avait été inventé quelque temps avant, au cours de la précédente exposition universelle, la photographie microscopique, qui permettait donc de placer sous les ailes des pigeons des centaines, voire des milliers de dépêches. Et quand ça arrivait à Paris, on les projetait pour les agrandir sur un écran. Et puis toute une série d'écrivains étaient là pour retranscrire les courriers et après les transmettre aux Parisiens. Donc.
Et les aéronefs ont créé des petits boulots, comme ces gens qui se retrouvaient le soir à la gare d'Orléans. Tu peux nous en parler un petit peu?
Oui.
C'est quelque chose qu'on ne connaît pas.
Oui, oui, Léontine, donc, qui est une voisine donc, du quartier des... Parce que l'action se situe dans le 13e arrondissement, dans le dans le quartier des Gobelins, qui était le quartier des tanneurs et des mégissiers, un quartier ouvrier populaire. Et donc il y avait beaucoup de couturières et de blanchisseuses dans ce quartier de Paris. Et beaucoup de femmes, essentiellement, ont été recrutées pour travailler à la couture des ballons. Donc avec les différents fuseaux, il fallait les coudre. Et donc il y avait des dizaines et des dizaines de femmes qui étaient sur des grandes tables dans la gare d'Orléans, là d'où partent les trains actuellement, enfin la gare d'Austerlitz. Et donc voilà, elles avaient ce travail de couturière. Et les marins, eux, fabriquaient les nacelles. Et je crois qu'il y avait aussi des douaniers qui s'occupaient de passer de l'huile de lin aussi. Enfin, il y avait plusieurs catégories comme ça de personnel qui travaillaient à la confection des. Alors, c'était le même travail du côté de la gare du Nord. Et je crois que les ballons de la gare du Nord avaient une certaine couleur et ceux de la gare d'Orléans avaient une couleur différente. On pouvait les différencier comme ça. Et c'était la Poste à l'époque qui aidait à fabriquer les ballons. Il y avait quelques ballons privés, mais c'est beaucoup la Poste qui a aidé à ce que la communication continue. Ouais.
Donc ton bouquin Un hiver de chien, Paris 1870-1871 aux éditions de Perrault est un bouquin passionnant parce qu'à travers les yeux d'un enfant, la petite Célie qui vit avec son papa qui est garde national, on découvre tous ses petits métiers. On est tenu en haleine parce qu'elle essaie d'envoyer du courrier à sa maman qui est à l'extérieur et on ne sait pas si le courrier va arriver. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit des personnages dont on a entendu parler, comme Blanqui par exemple, mais en filigrane, sans insister.
Oui, il y a quelques personnages historiques réels, parce qu'il y a mes personnages fictifs qui sont dans la trame du roman, mais j'ai voulu qu'il y ait quelques personnages historiques. Par exemple, il y a l'épouse d'Edmond Adam qui était responsable de la police au moment où il y a eu une tentative d'insurrection au mois d'octobre. Et lui avait promis que les personnes qui ont tenté de renverser le gouvernement ne seraient pas punies. Et finalement, elles ont été punies. Lui, il a démissionné aussitôt. Donc, c'est un homme de parole. Et sa femme, donc, qui était une femme de la bourgeoisie, Juliette Adam, a créé une cantine municipale sur l'avenue d'Italie, donc pas très loin du quartier où habitait ma petite héroïne. Et à un moment, elle la rencontre, elle. Et puis, Blanqui aussi. Et puisque Blanqui était recherché en permanence par la police, puisqu'il a passé la plus grande partie de sa vie en prison. Et un moment, après une autre tentative de renversement du gouvernement le 22 janvier, Blanqui a assisté à ce qui s'est passé devant l'hôtel de ville, où les mobiles bretons ont tiré sur la population. Il y a eu plusieurs morts parmi les gardes nationaux et des femmes également qui étaient présentes. Blanqui n'était pas très loin. Et il a observé, il savait que ce n'était pas le moment de tenter la révolution, que l'élan était cassé. Et après ça, pendant plusieurs jours, il a disparu. Parce qu'il changeait beaucoup de lieu de résidence et sans dire forcément où il était. Donc j'ai imaginé un moment qu'il rencontrait ma petite héroïne parce qu'il va être caché par son père malgré lui, parce que lui il a un petit peu peur qu'on trouve Blanqui chez lui. Et voilà, donc ça m'a permis un petit peu de parler de ce personnage très important dans le mouvement ouvrier et social du 19e siècle. Que je pense qu'on connaît assez mal finalement. Et il y a un boulevard Blanqui, là, parce que je crois que sa dernière demeure était sur le boulevard, l'actuel boulevard Blanqui dans le 13e. Mais oui, puis moi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et donc voilà, ça me semble important que lui soit là. Donc il y a aussi Eugène Godard, qui était de la famille Godard, donc des aérostiers, qui à un moment converse aussi avec mes petits personnages, Célie et puis Auguste, le petit ramoneur. Et donc voilà, et puis quelques autres personnages. Alors il y a forcément le fameux général Trochu, qui était le chef des armées de Paris, le chef du gouvernement, et puis le préfet de Paris également, qui avait toutes ses casquettes, pour un militaire, ce qui est normal. Et donc lui, il est très très présent. Et puis deux ou trois autres personnages, dont Émile Lacaze, qui est un des derniers à être parti en ballon de Paris, donc qui a aussi un rôle prépondérant dans le roman. Donc des gens un petit peu moins connus mais qui ont existé, et puis des gens plus connus comme Blanqui. On croise un moment Élisée Reclus qui est présent lors d'un départ de ballon à la gare du Nord. Il était réellement présent là avec un dramaturge dont le nom m'échappe, là je crois que c'était Sardou, je sais plus, enfin le nom m'échappe, mais ils étaient présents donc dans ce que j'ai pu lire. Bon ben, voilà, moi j'en ai profité pour les faire apparaître dans une scène. Voilà.
Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance. Et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir les hauteurs de Belleville, les versants de la Butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir en dettes plus faciles, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades, les Versaillais infâmes approchent de Paris. Tu m'as dit avec toi, je vais aux barricades, la place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pierres, en dernier culbute, une balle en plein front. Sur lui, tu t'es penché pour fermer ses paupières. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers, paysans, unissons nos colères. Malheur à qui nous vole en nous avilissant. Nous voulons le respect et de justes salaires et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire, on les traitait de brutes, ils acceptaient l'affront. L'égalité, la vraie, est à qui la désire, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Les falais des tyrans étaient en plus grand nombre, il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. Mais notre cri d'espoir qui va jaillir de l'ombre, le monde va l'entendre et ne plus l'oublier. Soldats, obéissez aux ordres de vos maîtres, que l'on nous exécute en nous frisant au cœur. De notre sang versé, la liberté va naître, la commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs.
Dissonance,
Fred Maurice.
Sur Radio Saint-Afrique.
Ton bouquin commence en septembre 70, non. 1870.
Non, il commence au mois de... le 14 novembre.
Le 14 novembre, ouais. 1870. Ouais. Il se finit fin janvier à peu près 1871.
Ouais.
Cinq semaines après, ça sera le 18 mars,
ouais.
L'avènement de la Commune de Paris.
Ouais.
On est tous en haleine.
Ouais.
On se dit, est-ce qu'il y aura une suite?
Alors, j'ai tenu par contre à ce que ça commence le 14 novembre, puisque c'est la première fois où les armées françaises, qui avaient été reconstituées en province par Gambetta, ont infligé une défaite aux armées prussiennes du côté d'Orléans. Donc c'était un moment d'effervescence et de joie. C'était la première fois depuis le début de la guerre où on pouvait enfin croire à la victoire. Et donc l'armistice, effectivement, va être signé le 28 janvier. Et il s'écoule deux mois, où va être élu on va dire un gouvernement, enfin des députés de tendance royaliste monarchiste. Et deux mois après, effectivement, le 18 mars, donc c'est l'explosion, enfin l'insurrection de et la Commune de Paris qui va durer pendant près de deux mois. Les deux événements sont liés, effectivement. Donc voilà, mon but initial n'était pas d'écrire quelque chose sur la Commune, mais je sais que plusieurs lecteurs et lectrices émettent la suggestion voilà, d'une suite. Je ne sais pas, mais bon, c'est vrai que c'est lié. Et puis également, très peu de choses, très peu de fiction étaient écrites sur le siège quasiment, enfin très 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 peu. Et sur la Commune, assez peu finalement, il y a beaucoup d'ouvrages historiques. Mais oui, c'est une possibilité, mais c'est un long travail de recherche, de documentation, de... d'écriture aussi, donc je sais pas, c'est...
Ton c'est livre nous permet une découverte historique d'une période peu connue, une découverte sociale, oui. La résistance de ces Parisiens, mais aussi une découverte géographique à travers deux arrondissements,
ouais.
Le 13e et le 5e, que tu nous fais découvrir, et il y a un paquet... pas loin de 100 d'illustrations qui sont magnifiques et qui nous apprennent qu'un ruisseau, la Bièvre, traversait le sud de Paris à cette époque-là.
Ouais.
Et c'est passionnant. Et puis qu'il y avait des tanneurs et des mégissiers.
Oui. Alors c'est vrai que pour les illustrations, alors moi j'avais beaucoup de documents que j'ai trouvés à travers mes recherches. Thierry de Perrault, l'éditeur, lui, a une très grande collection de cartes postales anciennes de Paris. Il publie d'ailleurs une très belle revue consacrée au 13e arrondissement et au 5e arrondissement, une revue historique. Et oui, la Bièvre, donc, elle traverse le sud de la région parisienne et se jette dans la Seine, elle se jette toujours, mais aujourd'hui elle est complètement recouverte dans Paris, donc elle a disparu depuis le début du 20e siècle à peu près. Et c'était une rivière qui servait au travail. Ça a servi aux blanchisseurs, ça a servi aux teinturiers, ensuite aux tanneurs, aux mégissiers. Donc elle était complètement polluée, elle était très très sale dans Paris. Mais c'est vrai que ça offrait des paysages urbains, moi, que je trouvais magnifiques. Et donc j'ai voulu situer l'action dans le 13e qui était en partie uniquement urbanisée. Une partie était encore campagnarde, bien que le 13e se situait à l'intérieur des remparts. Une partie, c'était encore la campagne. Il y avait beaucoup de terrains vagues. La butte aux cailles qui était très peu urbanisée. Et voilà, donc ça me plaisait, oui, effectivement, que ça se passe dans un quartier populaire et ouvrier. Et puis la Bièvre, oui, qui offrait des paysages assez incroyables. Elle passe dans le 5e aussi. Le 5e était complètement urbanisé à l'époque. Mais le 13e, ouais, pour moi, puis c'est un arrondissement que je connais, comme pas mal d'autres arrondissements de Paris. Mais voilà, c'est vrai que l'aspect du 13e de l'époque m'intéressait beaucoup. Puis il a beaucoup changé depuis, donc c'est vrai que les photographies permettent aussi de visualiser ce à quoi ressemblait Paris à l'époque. À un moment, on voit une photo de la rue des Gobelins qui, elle, est à peu près identique. Elle n'a pas changé, mais il y a des rues qui ont complètement disparu. Les mégisseries ne sont plus là. Il en reste des petits pans ici ou là, des souvenirs. Mais par contre, je parle souvent du jardin des Gobelins, qui appartenait aux artistes qui travaillaient dans la manufacture des Gobelins. Et aujourd'hui, c'est un parc qui a été construit à la place. Et voilà. Et je situe aussi plusieurs scènes dans le cabaret de Madame Grégoire, qui aujourd'hui existe toujours sous un nom différent et qui est un restaurant basque à la même adresse exactement. Voilà, c'est à peu près le seul souvenir de cette rue, la rue Croulebarbe. Voilà.
Dissonance.
Fred Maurice.
Sur Radio Sainte-Afrique.
Je connaissais Fred Maurice à travers tes écrits, notamment les écrits pour enfants de littérature jeunesse, Le Valet Enchanté, qui est sorti chez Chandorty en 2013, Les Disparus de la Cité Fleurie, chez Chandorty en 2014, ouais. Ceux d'en face, qui a été auto-édité en 2016. J'ai découvert aussi les premiers bouquins que tu avais écrits, notamment en 2005, chez l'Insomniaque, Zut, Petite Histoire des Grands Ensembles, sur la banlieue. 2009, La Semaine d'un Lézard sur Pôle emploi, on va dire, l'NPE, le chômage, etc., sur cette vision que tu avais sur le travail. En 2010, un bouquin, La Malédiction du Béton, des nouvelles, pareil, sur les banlieues. Mais alors, ce bouquin-là, Un hiver de chien, ça dénote complètement. On ne parle pas de banlieue. Oui. C'est pas un bouquin de littérature jeunesse.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Mais ça pourrait être un roman jeunesse, parce que je pense qu'il peut être lu par à peu près tout le monde. Alors, plutôt des ados, bien que ce soit un gros livre. Mais moi, j'ai toujours été passionné d'histoire. J'ai toujours beaucoup aimé Paris, les rues de Paris. Et puis, pour moi, on est toujours dans la littérature sociale dont je me revendique. Effectivement, dans mes premiers livres, je mets en scène des quartiers populaires actuels, donc des cités HLM où j'ai grandi. Et moi, je retrouvais un petit peu le même contexte, les mêmes rapports entre les voisins, etc. Donc, venant d'un milieu populaire, c'est pas trop compliqué pour moi de parler d'un milieu populaire, même si c'était il y a un siècle et demi. Donc, voilà, après, c'est... et puis, on a envie de se renouveler un petit peu quand on écrit. Ouais. Même si, en parlant de la banlieue, on peut aborder énormément de thèmes, ce que je fais à travers mes romans jeunesse, où c'est un jeune gamin qui mène des enquêtes non policières, je précise, parce que ce ne sont pas les policiers qui mènent l'enquête, là, mais un gamin de banlieue, et où j'aborde des thèmes sociaux d'actualité assez forts. Donc, pour moi, c'est dans la continuité, puis c'est vrai que, voilà, ça fait du bien aussi de pouvoir partager des choses que j'ai apprises avec les lecteurs, donc autour de cette période complètement méconnue. Et voilà, donc ça permet de leur sortir un petit peu de l'ombre.
Le côté enfant, je le retrouve, on retrouve ça dans tes bouquins de littérature jeunesse, mais après, dans tes premiers bouquins, on retrouve ce qu'on retrouve ici, c'est-à-dire ton amour de Paris, la déambulation dans Paris, dans Paris, la découverte de ces petites ruelles, de ces petites rues chargées d'histoire.
Ouais.
Parce que dans tes bouquins de banlieue, les gamins, à un moment, ils prennent le RER ou le métro pour pas aller voir Paris.
Ouais.
Et puis ici, tu nous donnes envie de retourner rue Mouffetard ou dans la rue des Gobelins pour voir comment c'est.
Je conseille à tout le monde de se promener rue Mouffetard, qui est une rue historique, puisque c'était une voie romaine à Paris, qui existe toujours et qui est avec beaucoup de commerçants, une petite rue typique du Paris de l'époque. Et c'est vrai que dans certains de mes premiers livres, moi, en tant que banlieusard de la lointaine banlieue, on prenait plus jeune régulièrement le train parce qu'on avait envie de se mêler à la vie parisienne. Et effectivement, plusieurs fois, oui, il y a des promenades comme ça dans Paris à travers mes livres. Et puis moi-même, j'ai lu plusieurs auteurs qui étaient des spécialistes de Paris et qui proposaient des promenades littéraires parce que c'était des amoureux de Paris, donc qui racontaient leur quartier. Voilà, Léon-Paul Fargue, entre autres, Henri Calais. Voilà, c'est des gens que j'ai beaucoup aimé. Et donc moi aussi, j'avais ce désir de raconter ma vision des rues de Paris. Puis bon, bah là, c'était l'occasion de ne parler que de ça, quoi. Donc
on va en savoir plus avec Un hiver de chien, Paris 1870-1871, ouais, de Fred Maurice aux éditions de Perrault. On va en savoir plus sur ce siège de Paris, mais on en sait très très peu sur Fred Maurice. Ah, qui est Fred Maurice? Ah,
je crois que le mieux, c'est de lire ses livres pour le connaître. Non, ben voilà, ben moi je suis un auteur, petit auteur, j'aime dire, parce que quand on n'est pas connu du grand public, on se considère comme un petit auteur. Et puis, j'ai beaucoup d'activités artistiques, on va dire, bien que j'aime pas trop le terme. Mais je suis également illustrateur, j'ai une formation de peintre en décor, je suis peintre aussi, je fais des expositions de temps à autre. Et puis, je suis aussi membre d'une maison d'édition que tu connais un petit peu, qui s'appelle Champ d'Ortie. Depuis quelques temps, je fais partie de la petite équipe de Champ d'Ortie, et qui est une maison d'édition qui publie des romans jeunesse, mais qui s'adresse aux enfants un petit peu différemment de ce qu'on peut trouver en général dans la littérature jeunesse. Et donc là, on aime bien amener les enfants à réfléchir sur des thèmes assez importants, quoi. Donc voilà, et puis bah, grandi en banlieue parisienne, d'où je tire beaucoup mes sources d'inspiration.
D'origine ouvrière aussi.
Oui, voilà, oui, bah, de famille ouvrière et puis d'un quartier ouvrier, parce que c'est bien de rappeler que les quartiers HLM étaient à la base des quartiers ouvriers qui sont paupérisés depuis 2-3 dizaines d'années maintenant. Et donc voilà, donc c'est pour ça que moi, je suis passionné de littérature prolétarienne, et que je pense que ce que j'écris, ça s'inscrit dans cette ligne, en toute modestie. Mais voilà, donc je pense que c'est important, tout comme les ouvriers de la fin du 19e siècle ou les paysans ont ressenti le besoin d'écrire ce qu'ils vivaient et ne pas laisser des écrivains bourgeois raconter leur vie. Moi, quand je peux voir le traitement médiatique des banlieues, c'est un petit peu aussi ce qui m'a amené à vouloir écrire et raconter de l'intérieur ce que j'ai pu connaître à l'époque, même si ça fait longtemps que j'ai quitté les quartiers, mais j'en suis quand même très imprégné. Et donc pour moi, c'était important aussi, comme on fait ces écrivains à l'époque, de raconter de l'intérieur les quartiers populaires d'aujourd'hui, qui maintenant sont des bars et autres. Enfin, il n'y a pas que ça, mais moi, c'était mon univers. Et donc c'est un petit peu ce qui a motivé aussi Bon, j'ai toujours écrit, mais de concrétiser, on va dire, mes projets d'écriture. Et je pense que c'est important de témoigner quelque part d'une réalité qui est complètement dévoyée par les médias, quoi.
Et tu fais aussi de magnifiques dessins d'actualité satirique et humoristique qu'on peut retrouver sur le site internet de Chronique Hebdo.
Oui, Chronique Hebdo est une émission de Radio Libertaire qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, qui reçoit beaucoup de personnalités assez connues ou moins connues, qui est très intéressante. C'est une chronique, enfin, c'est le traitement de l'actualité à travers une vision libertaire. Et comme ce sont des amis qui font cette émission, ils m'ont proposé de faire des dessins d'actualité, mais pareil, un petit peu sous une vision un peu plus libertaire que ce qu'on peut voir ailleurs. Et voilà, donc chaque semaine, j'essaie de faire un dessin de bon, ce qui était une démarche nouvelle pour moi, mais bon, c'est assez distrayant, et puis je crois que ça plaît plutôt bien, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc oui, voilà, ça permet d'avoir une pratique un petit peu différente à travers le dessin ou la peinture. Oui, ça étend un petit peu le champ de pratique.
Un hiver de chien, Paris 1870-1871. Comment et où peut-on se procurer ton livre, Fred?
Alors, on peut le trouver. Le plus simple, c'est auprès de l'éditeur, Thierry de Perrault.
Édition de Perrault.
Le commander auprès des libraires, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Si vous n'êtes pas à Paris et que vous le commandez en province, c'est un petit peu compliqué. Et on le trouve dans plusieurs librairies parisiennes, surtout du 5e, du 13e, du 11e aussi. Mais le plus simple pour les personnes qui ne sont pas à Paris, c'est plutôt d'aller sur les différents sites de l'éditeur et de commander auprès de l'éditeur. Voilà, mais je crois que le premier tirage n'est pas loin d'être épuisé. Donc,
voilà. On mettra sur la page internet de Dissonance tous les liens pour pouvoir se procurer le livre, et puis des informations sur Champ d'Ortie et sur tes autres livres.
Oui, volontiers.
Merci beaucoup, Fred Maurice.
Merci à toi.
Merci.
Il était une fois dans ce grand cimetière. Écoute bien, l'ami, c'est une histoire vraie. Le gouvernement d'alors avait perdu sa guerre. L'État de Prusse avait vaincu l'État français. Le gouvernement d'alors avait perdu sa guerre. L'État de Prusse avait vaincu l'État français. Pendant qu'on s'arrangeait entre grands de l'époque pour payer le tribut au premier des tueurs, voilà que de Paris le peuple se convoque et décide comme ça qu'il ne veut plus de supérieur. Voilà que de Paris le peuple se convoque et décide comme ça qu'il ne veut plus de supérieur. Tous les copains de la commune ne sont pas morts sans rien laisser. Ils doivent nous garder rancune, de laisser crever leur passé. Ils doivent nous garder rancune, de ne pas mieux en profiter. L'État de France implore son ami vainqueur de lui donner la main pour mater la canaille, car il faut sans tarder aller clouer la peur au cerveau parisien qui brave la mitraille. Car il faut sans tarder aller clouer la peur au cerveau parisien qui brave la mitraille. Et c'est le 18 mars de l'an 71 que depuis le palais où rota Louis XIV, Monsieur Thiers a brandi quelques canons de bronze et crié vers Paris, ils vous feront rendre gorge. Monsieur Thiers a brandi quelques canons de bronze et crié vers Paris, ils vous feront rendre gorge. Tous les copains de la commune ne sont pas morts sans rien laisser. Ils doivent nous garder rancune, de laisser crever leur passé. Ils doivent nous garder rancune, de ne pas mieux en profiter. Une fille de Paris a gueulé vers le ciel et laissé sa jeunesse dans un bagne pourri. Femme, si vous luttez, saluez Louise Michel, et si vous ne luttez pas, saluez-la aussi. Femme, si vous luttez, saluez Louise Michel, et si vous ne luttez pas, saluez-la aussi. Aussi souvenons-nous que des frères oubliés, venus d'autres pays, citoyens de la terre, sont morts des mêmes balles que leurs frères français. Ils avaient oublié les drapeaux, les frontières, sont morts des mêmes balles que leurs frères français. Ils avaient oublié les drapeaux, les frontières. Tous les copains de la commune ne sont pas morts sans rien laisser. Ils doivent nous garder rancune, de laisser crever leur passé. Ils doivent nous garder rancune, de ne pas mieux en profiter. Notre mémoire est née de ces quelques semaines. Compagnons et compagnes, il faut l'utiliser. Revendiquons les rues, les montagnes, les plaines, et comme les communards, abolissons l'armée. Revendiquons les rues, les montagnes, les plaines, et comme les communards, abolissons l'armée. Il faut gratter l'oubli dont on a recouvert les leçons des copains qui furent assassinés. Il faut savoir que l'autonomie ouvrière a laissé dans l'histoire des blessures infectées. Il faut savoir que l'autonomie ouvrière a laissé dans l'histoire des blessures infectées. Tous les copains de la commune ne sont pas morts sans rien laisser. Ils doivent nous garder rancune, de laisser crever leur passé. Ils doivent nous garder rancune, de ne pas mieux en profiter.
La La chronique poélytique d'Elsa Dauphin.
Aujourd'hui, je suis bien embêtée. Pour tout vous dire, je ne sais pas trop ce que je vais vous raconter. J'avais dans l'idée de vous parler de la romancière turque Asli Erdogan. Au mois d'août dernier, elle a été arrêtée et emprisonnée pour avoir tenu une rubrique dans un journal pro-kurde. Pour le dictateur Recep Tayyip Erdogan, qui n'a aucun lien de parenté avec elle, soutenir un peuple qu'il s'acharne à éradiquer s'apparente au soutien à une organisation terroriste. J'avais donc l'intention de parler de cette femme écrivain, et puis d'autres noms sont venus que j'avais incidemment convoqués. Ossip Mandelstam, Yanis Ritsos, Nazim Hikmet, Federico Garcia Lorca, Abdelatif Labi, Robert Desnos. Tous poètes, russes, grecs, turcs, espagnols, marocains, français, emprisonnés, torturés, assassinés pour avoir écrit. Ossip Mandelstam, par exemple, avait composé ce poème sous le règne de Staline. « Nous vivons sans sentir sous nos pieds notre sol. On n'entend pas nos paroles à 10 pas. On n'entend que le montagnard du Kremlin, l'assassin et le mangeur d'hommes. » Il fut jugé pour ces mots. Il est mort en déportation, en Sibérie, en 1938. Bon, je n'étais pas plus avancée pour continuer cette chronique. J'éprouvais même une sorte de lassitude, sans doute due à la répétition, au bégaiement de l'histoire. Alors quoi, Asli Erdogan tout de même ? Je n'ai rien lu d'elle, et avant son emprisonnement, je n'en avais jamais entendu parler. Après 136 jours d'incarcération, son procès a eu lieu. Suite à la mobilisation de la communauté internationale des écrivains, elle a été remise en liberté fin décembre. Le jugement sera rendu en mars. Mais la litanie se poursuit, obsédante. Ashraf Fayad, Ibn al-Dib, Enome Yomes, Libby Feng, Breiten Breitenbach, Alvaro Mutis. Encore des poètes, palestiniens, qataris, camerounais, chinois, sud-africains, colombiens. Des poètes qui, pour leur prise de position, pour leur implication dans la vie citoyenne et pour leurs mots qui disent la réalité des tyrannies et des injustices, se retrouvent la cible de pouvoirs totalitaires. Prenez Ashraf Fayad, poète palestinien vivant en Arabie Saoudite. Il a été condamné à la peine de mort en 2015 par la justice saoudienne pour apostasie. Sa peine a été commuée en 800 coups de fouet et 8 ans de prison. Alors oui, Asli Erdogan. Elle encourt une peine de réclusion à perpétuité. Une peine de réclusion à perpétuité pour avoir dit la fin de la liberté d'expression en Turquie. Une peine de réclusion à perpétuité pour avoir raconté les bombardements des villes du Kurdistan turc par l'armée turque. Une peine de réclusion à perpétuité pour avoir décrit les massacres dont sont victimes les Kurdes. Une peine de réclusion à perpétuité pour avoir écrit des mots qui dénoncent un pouvoir dont le visage est, dit-elle, le fascisme d'aujourd'hui. Une peine de réclusion à perpétuité pour avoir écrit simplement.
Poète, vos papiers. Poète, papier. Le dictionnaire et le porto à découvert, je débourre des mots à longueur de pelure. J'ai des idées au frais de côté pour l'hiver, à rimer le beefsteak avec les engelures. Cependant que Zara enfourche le bidet à l'auberge d'Ada, la crotte est littéraire, le verre est libre enfin et la rime en congé, on va pouvoir poétiser le prolétaire. Spécialiste de la mistoufle, émigrant qui pisse au visa, aventurier de la pantoufle, sous la table du nirvana, meurt de faim qui plane à la une, écrivain public des croquants, anonyme qui s'en tribune, à la barbe des continents, poète, vos papiers, poète, documenti.
Vous pouvez trouver le livre de Fred Maurice, Un hiver de chien, à Sainte-Afrique, en vous rendant à la librairie du Progrès, boulevard de la Résistance. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission en vous rendant sur le site internet de Radio Sainte-Afrique à la page Dissonance. Vous y trouverez les références des musiques et chansons entendues, ainsi que des liens qui complètent cette émission. Des informations sur les publications de Fred Maurice, notamment sur son dernier livre, mais aussi un lien vers le site de Chronique Hebdo pour y découvrir ses dessins satiriques. Cette émission sera rediffusée lundi 27 février à 20h et mercredi 1er mars à 11h. Merci pour votre écoute. Au mois prochain.
Salut et fraternité.